Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Pascal, j'allais dire plutôt Patience Ngalula.
Au sommaire de ce journal, les deux chambres du Parlement autorisent la 85e prorogation de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. Toutefois, le vice-ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement va amorcer l'évaluation de ces régimes dès la fin de ce mois de novembre. Les travaux des États généraux de la justice se poursuivent à Kinshasa. Deux jours après leur lancement, nous faisons dans ce journal les panoramas sur leur déroulement hier, jeudi et aujourd'hui avec notre envoyé spécial Jeff Ngoy. Notre invité est le recteur de l'Université de Kalemie, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, fait un état des lieux de son institution qui totalise 20 ans d'existence cette année. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Autorisation hier jeudi de la 85e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu par les deux chambres du Parlement. Si l'Assemblée nationale a voté pour cette prorogation sans débat, le Sénat a quant à lui engagé un débat houleux avant toute prorogation. Il ressort de ces débats que l'état de siège n'est pas en mesure de restaurer la paix dans cette partie du pays. Et c'est à cette occasion que le vice-ministre de la Justice a rassuré les parlementaires que sur instruction du président de la République, le gouvernement amorcera l'évaluation de l'état de siège dès la fin de ce mois de novembre. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole au perchoir des deux chambres du Parlement, le vice-ministre de la Justice souligne la nécessité d'une nouvelle prorogation de l'état de siège. Samuel Mbemba annonce notamment l'évaluation de l'état de siège d'ici la fin de ce mois de novembre par l'exécutif national, mais aussi l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans les deux provinces autour du 21 novembre. Favorable pour l'évaluation de l'état de siège, le président de l'Assemblée nationale exige que ses assises se tiennent au Parlement. Vital Kamere.
L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups.
Après l'étape de l'Assemblée nationale, le Sénat a aussi autorisé la prorogation de l'état de siège juste après l'adoption de son calendrier des matières de la session de septembre.
Entre-temps, au Nord Kivu, la situation reste tendue ce vendredi sur l'axe Pinga-Peti, territoire de Walikale. Les combats opposant l'armée congolaise et les combattants VDP Wazalendo aux rebelles M23 ont repris hier jeudi dans la zone. Certaines sources militaires parlent de la réoccupation de Peti par l'armée congolaise. Par ailleurs, un civil a été tué et trois autres blessés lors d'autres affrontements hier jeudi près de Kibumba, dans les Nyiragongo. Bernardin Nyangi.
Les FARDC et les combattants Wazalendo contrôlent à nouveau l'agglomération de Peti à une dizaine de kilomètres de Pinga, affirment certaines sources militaires à Walikale. C'était dans la soirée hier jeudi, à l'issue des violents combats qui y ont repris dans la mi-journée. Toutefois, des sources civiles affirment que la situation reste très tendue et volatile dans cette zone où les rebelles M23, qui sont toujours en Udjenje, se regardent en chien de faïence avec les FARDC et leurs alliés locaux. Jusque ce matin vendredi, quelques tirs sporadiques s'y faisaient encore entendre, disaient ses sources. Par ailleurs, en territoire de Nyiragongo, certains notables locaux dressent le bilan d'un civil tué et de trois autres blessés, et aussi des affrontements ayant opposé dans la matinée hier jeudi les rebelles M23 au FARDC et Wazalendo dans l'ouest de Kibumba. Ces civils faisaient la cueillette des bois de chauffe dans le parc quand ils ont été surpris par ce combat autour de 7 heures locales. Sur leur compte X, des sources rebelles M23 nient leur participation dans ce combat. Elles disent qu'ils auraient opposé certains éléments FARDC à quelques combattants Wazalendo à la suite d'un désaccord présumé sur la gestion des barrières illégales dans cette zone du parc. Goma, Bernardin Yangui, Radio Capi.
Poursuite des travaux des États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Deux jours après le lancement de ces travaux par le chef de l'État, nous faisons un tour d'horizon sur leur déroulement jeudi et aujourd'hui en attendant la clôture programmée la semaine prochaine. Pour en savoir un peu plus, nous rejoignons sur place au centre financier notre envoyé spécial Jeff Ngoy qui couvre pour nous ses assises. Bonjour Jeff Ngoy, qu'est-ce qu'on peut retenir de la séance plénière du jeudi?
Bonjour Patience. Eh bien, il faut retenir que la plénière d'hier a enregistré plusieurs interventions autour d'une dizaine de thématiques. Le premier panel a porté sur l'état de droit, justice de qualité pour tous et modernisation. Dans ce panel, les intervenants ont passé au peigne fin la protection constitutionnelle de la présomption d'innocence et l'incidence qu'elle peut avoir sur la prolifération des mandats d'arrêt provisoire et autres interpellations illégales, les fondements de la liberté de la presse et d'expression dans la réforme de la justice, la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel congolais, l'indépendance du pouvoir judiciaire dans la réforme constitutionnelle de la justice. Il y a eu des analyses critiques sur la nature et le statut du magistrat du parquet et du magistrat du siège. La problématique de la correction des erreurs matérielles dans le cadre du contentieux électoral, etc. Patience Ngalula, les thématiques sont nombreuses et parfois le débat va jusque tard dans la soirée.
Et alors, qu'est-ce qui est de plus marquant dans tous ces débats?
La réforme constitutionnelle, c'est le maître mot. Presque dans tous les débats, les intervenants font des propositions allant dans le sens de réformer le système judiciaire congolais afin de l'adapter aux nouvelles réalités. Ces réformes concernent non seulement la justice, mais aussi d'autres disciplines comme les médias. On note par exemple cette proposition faite par le président du CESAC pour améliorer l'arsenal juridique de cet organe de régulation des médias afin de faire face aux fake news et d'autres maux qui rongent ce secteur. En ce qui concerne l'appareil judiciaire, prenons l'exemple de ces débats nourris des applaudissements de ceux qui sont d'accord et parfois des magistrats opposés concernant la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature qui pourra intégrer presque tout le monde.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu?
Le programme sous mes yeux prévoit des discussions sur la justice pénale, administration judiciaire et pénitentiaire pour le troisième panel, avec des thématiques se rapportant à la juridictionnalisation du droit pénitentiaire congolais, défis et perspectives, axes et orientations pour un modèle pénitentiaire congolais, contentieux internationaux de la RDC. Le quatrième panel prévoit un débat sur la protection des droits humains, justice internationale et justice transitionnelle. Thème retenu notamment la justice pénale militaire. Pour quelles réformes? L'état de coopération avec la CPI, la prolifération des médias en ligne et leur encadrement. Thème qui va être développé par le président de l'UNPC. Les débats ont déjà commencé depuis ce matin et se poursuivent en ce moment même ici au centre financier de Kinshasa. Mais il faudra attendre mercredi prochain les résolutions qui seront prises et les options levées sur la réforme de la justice congolaise. Voilà tout pour l'instant.
Merci Jeff. Dans la province de la Tchopo, les habitants de la ville de Kisangani saluent l'organisation des États généraux de la justice. Cependant, leurs avis sont partagés quant aux résultats sur terrain. Si certains affirment qu'ils pourront trouver des solutions aux multiples maux qui gangrènent la justice congolaise, d'autres par contre déclarent qu'il n'y aura rien de bon. On les écoute dans ces propos recueillis par Jacques Mukonkole.
Les états généraux de la justice se tiennent pour énumérer d'abord les problèmes qui freinent la justice et aussi chercher des solutions. Ce qui concerne la réparation de l'appareil judiciaire, la réhabilitation de l'appareil judiciaire, il faudrait tenir compte de plusieurs facteurs. Il y a d'abord la compétence, la formation des acteurs de la justice.
Franchement, c'est une bonne initiative, mais je crains que ça ne puisse accoucher d'une souris, qu'il faille mettre beaucoup de moyens pour encourager les concernés. Quelqu'un qui gère un dossier de 1 000 $, 2 000 $ pour être payé en monnaie de singe, j'estime que ce n'est pas bon. Aussi, faudra-t-il attaquer les récalcitrants, des gens qui font du n'importe quoi, ils font la justice familiale, la justice personnelle, ce qui n'est pas bon.
Il faut bannir le tribalisme. Quelqu'un peut détourner, peut faire du mal. Il a un frère juriste, on sanctionne, mais à un certain moment, on relâche l'homme en question. À l'époque de Mobutu, on faisait des permutations. Dans des contrées où tu n'as pas de femmes. Vous allez travailler dans l'objectivité parce qu'il n'y a pas de sentiments.
L'actualité, c'est aussi la poursuite des préparatifs pour la tenue des élections législatives partielles dans le territoire de Massimanimba, dans la province du Kwilu. Actuellement, la délivrance des duplicata, j'y arrive, des cartes d'électeurs est en cours dans chacun des 10 chefs-lieux des secteurs par la CENI. La cartographie vient de prendre fin et les équipes travaillent d'arrache-pied pour des formations en cascade des différents acteurs. L'administrateur du territoire, Emery Kanguma, s'est dit rassuré et appelle la population à un espoir sportif et les candidats à la paix et à l'unité. Irène Bomaluzolo.
Au regard de la manière dont ces préparatifs évoluent à Massimanimba, l'administrateur de ces territoires rassure que les élections législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu en date du 15 décembre 2024 telles que prévues par la CENI. Enthousiasmé, Emery Kanguma lance ce message à la population de son entité.
À la population de Massimanimba, d'avoir l'esprit sportif, c'est ça les élections qu'on attendait. Recevez tous les candidats qui vont faire campagne. La population ne soit pas manipulée par d'autres gens. C'est une élection qui sera crédible et transparente par rapport à ce que nous voyons comme travail produit par les agents qu'on a nommés de la CENI.
L'autorité territoriale appelle aussi les différents candidats à la paix et à l'unité avant, pendant et après les 10 scrutins.
Aux candidats, venez avec les messages de la paix, les messages de réconciliation. Cette élection ne peut pas nous diviser. Nous demandons l'unité territoriale, l'unité du Kwilu, l'unité des Grands Bandundu.
Rappelons que les élections législatives du 20 décembre dernier ont été annulées par la CENI à Massimanimba. Les actes de violence et de vandalisme, la corruption et la fraude électorale étaient à la base de l'annulation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, après 5 semaines d'attente de la promesse du gouvernement, les agents et cadres de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, ont organisé ce jeudi un sit-in devant les bureaux de la primature à Kinshasa. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, le président de la délégation syndicale nationale de la RTNC, Christian Kadifouako, a expliqué qu'il revendique le paiement de 25% des compléments de leur prime des motivations spéciales et de la prime due à la recette de redevance. Au sort d'un échange avec les cabinets de la première ministre, la délégation syndicale de la chaîne nationale note le manque de volonté du gouvernement de résoudre leur désiderata. Christian Kadifouako au téléphone de Blaise Ndonga Lamayanda.
Il devait y avoir les bons d'engagement de nos 25% du complément des salaires, des bons d'engagement de 4 mois, ce qui fait un total de 8 mois. Malheureusement, tous ces engagements n'ont pas été respectés parce que le gouvernement n'a fait qu'un seul bon d'engagement de 4 mois sans convoquer la réunion tripartite. Voilà ce qui nous a poussé de retourner encore à la primature pour continuer notre revendication. Nous avons été reçus, malheureusement, nous nous sommes séparés un peu en quai des poissons avec les collaborateurs de Madame la Première Ministre. Alors, nous nous sommes dit, si nous constatons que le gouvernement ne veut pas écouter les cris d'alarme du personnel de la RTNC, cela va nous pousser carrément à entamer les processus de la grève jusqu'à la cessation collective du travail. Parce qu'on ne peut pas comprendre, malgré tout ce que la RTNC fait, que le gouvernement puisse faire sourde oreille pour ne pas écouter les cris d'alarme du personnel de la RTNC.
Le personnel de la RTNC veut aussi avoir des éclairages sur la traçabilité de leurs cotisations mensuelles à la Caisse nationale de sécurité sociale. Direction la province de l'Ituri où les sauterelles, ces insectes comestibles communément appelés magnonions, très prisés par la population, sont encore rares sur les marchés à Bounia. Certains habitants estiment que le prix d'une mesurette est exorbitant, ce qui explique un faible engouement pour cette nourriture. Pour les vendeurs des sauterelles, cela constitue un manque à gagner. Ézéchiel Mouzalia.
Un faible engouement des clients s'observe dans différents points de vente et des sauterelles depuis environ une semaine au marché central de la ville de Bounia. Les femmes vendeuses de ces produits à l'entrée du grand marché disent constater encore une rareté de ces insectes nutritifs très appréciés par les consommateurs. Une femme vendeuse témoigne.
Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter. Ce type de commerce nous aide beaucoup. C'est au quartier gouvernorat et Délé. tombe beaucoup car là, il n'y a pas encore de forte concentration de la population.
De nombreux habitants déplorent le coût élevé du prix des sauterelles fraîches ou grillées au marché. Une mesurette à la taille d'une louche et se vend à 3000 francs congolais, voire 4000 francs. Même chose aussi pour une bouteille de Nido qui se négocie à 20 000 francs congolais, ce qui empêche les consommateurs de s'en procurer, comme le dit cette autre femme.
J'aime les sauterelles, mais pour le moment, elles sont encore rares. Nous craignons les prix. Le coût de vie actuellement est très difficile. Imaginez avec 20 000 francs, vous pouvez avoir du poisson et légumes et les enfants mangent.
La vente des sauterelles semble être une aubaine pour de nombreux habitants dans la ville de Bounia qui font face à la monotonie alimentaire. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le marché central de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, fait face à un problème d'hygiène. En cause, le manque ou plutôt l'insuffisance des latrines. Ces lieux publics, pourtant très fréquentés par la population, ne disposent que de 3 latrines en mauvais état, ce qui expose les usagers, notamment les commerçants et femmes, à des risques sanitaires. Guylaine Kassassia pour les détails.
Les 3 latrines manquent d'eau et leur état de propriété laisse à désirer. Ces situations contraignent les commerçants, notamment les femmes, à se soulager sous les étalages, comme les dit cette vendeuse.
Nous sommes nombreux ici, mais sans latrine, ce qui expose à plusieurs risques d'infection, car certains vendeurs se soulagent sous leurs étals et d'autres utilisent même des sachets qu'ils laissent. Cela constitue un grand danger, surtout pour les enfants qui jouent avec.
Pierre Kambale et Elvia Kuno, le président de la société civile du Congo dans les territoires de Beni, presse les autorités à construire des nouvelles latrines au marché central d'Oicha, surtout pour les femmes vendeuses qui y passent toute la journée.
C'est une nécessité pour la communauté d'Oicha et surtout les usagers du marché d'avoir les latrines, puisque nous avons des mamans qui ont besoin surtout des installations sanitaires pour respecter aussi la dignité humaine.
Contacté, la bourgmestre de la commune d'Oicha promet de trouver une solution à ce problème. Signalons que la commune rurale d'Oicha compte environ 500 000 habitants. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président russe Vladimir Poutine a félicité Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis, exprimant sa volonté de coopérer avec les nouveaux dirigeants pour rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis, ainsi que pour avancer sur la résolution de la crise ukrainienne.
L'invité.
Notre invité est le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, recteur de l'Université de Kalemie. Dans un entretien avec Paulin Munanga, il fait un état des lieux de son institution qui totalise 20 ans d'existence cette année. Suivez.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au fil des années, l'UNICAL a évolué et s'est vraiment métamorphosé. Pouvez-vous nous parler de cette évolution en quelques mots?
L'université de Kalemie, UNICAL en sigle, c'est la première et la plus grande institution académique de la province du Tanganyika. Elle a été créée et a existé pendant un certain temps comme étant une extension de l'université de Lubumbashi, qui est la maison mère.
C'était en quelle année?
En 2004, ce qui fait que cette année, l'UNICAL est âgée de 20 ans, c'est le jubilé de porcelaine. Beaucoup d'efforts ont été faits et depuis 2010, elle est devenue autonome comme université publique à part entière. Alors, beaucoup de choses ont changé, mais ici, il faut présenter un petit tableau de l'université de Kalemie. Elle organise 8 domaines d'enseignement. Actuellement, notre effectif varie autour de 2500 étudiants. Nous avons 11 professeurs en propre à l'université de Kalemie. Nous avons 31 chefs de travaux, 105 assistants, dont 5 sont en formation doctorale à l'étranger et 56 sont en formation doctorale ici au pays.
Et comment organisez-vous la faculté de médecine qui exige certains préalables?
Oui, la faculté de médecine de l'université de Kalemie a quand même une petite histoire. À ses débuts, c'était un peu comme partout au pays, des facs de médecine ont été ouvertes partout. Et ensuite, une enquête de viabilité avait été menée sous l'administration du ministre, du professeur, au docteur Machako Mamba. La fac avait été fermée et quelques années après, on a fait une étude. On l'a réouverte parce qu'elle présentait un profil assez supérieur à celui des autres qui existaient au pays. Mais il y a 2 ans, lorsqu'une nouvelle enquête a été faite, cette faculté a été placée sous la tutelle de celle de l'université de Lubumbashi, donc elle n'a pas été fermée. Des efforts ont été déployés pour essayer de relever le niveau. J'ai écrit à son excellence Monsieur le ministre de l'ESSU, qui m'a autorisé de recruter des enseignants spécialistes. J'en ai recruté des spécialistes et des professeurs docteurs à thèse en médecine. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous venions de recevoir il y a quelques temps une mission de contrôle de viabilité dirigée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle était ici la semaine passée. Les termes de référence de ce contrôle nous avaient été partagés bien avant. La mission a fait son travail et nous sommes très optimistes que nous remplissons toutes les conditions requises pour former comme il se doit les médecins.
Oui, monsieur le recteur, l'université de Kalemi fait face à un problème de manque de professeurs. Comment vous palliez à cette situation?
Le manque de professeurs, c'est un problème qui est commun à toutes les universités, y compris les plus grandes universités, parce que aucune d'entre elles n'est complète en tout. Donc on a toujours besoin de l'expertise des autres. L'université de Kalemie n'est pas forcément une très mauvaise posture parce que nous avons déjà quelques professeurs en propre. À mon arrivée, il y a simplement 5 ans, l'UNICAL n'avait aucun professeur. Elle avait fonctionné pendant 14 ans sans aucun professeur en propre. Mais pendant 5 ans, je suis à 11 professeurs propres à l'UNICAL. Mais pour compléter cette équipe, j'ai fait recours à des professeurs visiteurs. L'année passée, on en a fait venir 58. L'année académique qui commence ici, notre objectif est d'en faire venir 80 qui viendront de l'université de Lubumbashi, de l'université officielle de Bukavu, les deux principales universités avec qui nous avons des partenariats, mais aussi d'autres établissements de l'ESSU, de Kinshasa, de Kisangani et de partout.
Mais nous avons constaté que plusieurs cours sont dispensés par des assistants et chefs de travaux en lieu et place des professeurs. Cela n'est pas un handicap au sein de votre institution universitaire?
Il faut relativiser. J'ai dit ici que nous recevons près d'une 60aine de professeurs. Si nous mettons la moyenne des 240 heures par professeur, faisons le calcul, ça fait aussi plusieurs cours qui sont dispensés par des professeurs. Qui est des assistants, des chefs de travaux qui animent des enseignements, ce n'est pas simplement le cas à l'UNICAL, même à l'UNIKIN où il y a des milliers de professeurs, même à l'UNILU où il y a des centaines de professeurs, des assistants dispensent des cours.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, je vous remercie.
Merci infiniment, bonne journée à vous.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information mise en onde par Pierre Diassinois, supervisée et coordonnée par Alain Irung et Jacques-Yves Molima. À la présentation, c'était Patience Ngalula Mbombo. Merci de votre attention.